ce langage, il est commun à l'ensemble des sandpinteurs? Est-ce qu'il y a une codification? Et où trouve-t-on cette codification?
Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, pas avec une volonté hégémonique, pas un truc de pouvoir. On essaie, en effet, de rendre universel ce langage, c'est-à-dire de faire qu'en Amérique du Sud, au Brésil, aux États-Unis, dans les pays du Nord, en Europe, Turquie, au Japon, bon, on utilise les mêmes gestes. Ça marche, puisqu'en fait, on se réunit depuis 15 ans, tous les ans, pour mettre en commun le langage. Tous les sandpinteurs du monde, on n'est jamais tout le monde entier, mais enfin, on est quand même une trentaine à chaque fois, pas toujours les mêmes. Et on remet en commun les nouveaux signes qui ont été utilisés, ceux qui sont devenus obsolètes, ceux qui portent en eux une contradiction, donc on essaie de remettre les choses à plat, etc. Mais coexistent en fait, depuis 30 ans, 40 ans, un grand nombre de langages. Il y a des gens qui ont créé leur propre langage et qui est presque valable que pour eux-mêmes, comme par exemple John Zorn, avec son langage qu'il a appelé Cobra, qui est une forme de jeu, finalement, avec les musiciens. Il y a des gens qui... Braxton, Zappa, Earl Brown, ça, c'est une filiation avec le sandpinting. Ce sont des gens qui sont très proches. Ensuite, il y a en France, Andy Emler, Olivier Benoît, qui ont créé plutôt leur propre langage à eux. Je ne crois pas qu'ils soient partagés avec beaucoup de gens. Mais il y a eu aussi le fameux Butch Morris, qui a créé le langage qu'il a appelé conducteur, chose extraordinaire avec une baguette et tout, mais ça, on pourrait dire que ce sont les cousins du sandpainting. Moi, j'aime bien mes cousins, j'ai aucun problème avec ça, c'est simple. L'avantage de vouloir le rendre, l'universaliser, c'est qu'on peut arriver, je peux arriver demain en sortir de l'avion au Japon et puis diriger un ensemble que j'ai jamais vu. Et ça, c'est très précieux de pouvoir faire ça.
Donc, il y aurait une internationale du sandpainting.
Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, on peut dire ça comme ça.
Et on arrive à faire une cartographie dans le monde, puisque j'ai l'impression que cette émergence de cette forme semble prendre racine un petit peu partout. En France, on a eu le premier festival qui a commencé en 2013. On voit bien qu'il y a quelque chose qui émerge, une attente et qui semble rencontrer un public.
En fait, ça va peut-être surprendre vos auditeurs, mais c'est en France que le sandpinting est le plus développé. Bien que Walter Thompson soit américano-canadien qui vive en Suède, c'est en France qu'il y a le plus d'ensembles multidisciplinaires qui pratiquent le sandpainting. Bon, il y a aussi beaucoup en Espagne, en Angleterre, en Belgique, etc. Mais quand même, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer le festival en France. Enfin, ça me semblait naturel. Paris, capitale culturelle, ben là, pour le coup, ça tombe vraiment bien, quoi. C'est pas quelque chose qui... C'est pas une chose forcée, c'est historique.
Ce que j'ai découvert à l'observation, c'est le rapport au corps des interprètes. Alors, bien sûr, il y avait un danseur, il y avait un acteur, et je voyais tous ces jeux d'interrelations qui se produisaient, où le corps du musicien traditionnellement dans notre culture occidentale est enfermé dans son enveloppe et on lui demande la plus grande inexpressivité possible. N'être pas là tout en jouant, en étant parfaitement là. Et là, vous demandez un petit peu plus, il me semble.
Oui, c'est un risque, en effet. En fait, pour faire le lien, si on a dans un ensemble un danseur, un comédien et des musiciens, on ne peut pas demander, en effet, à des musiciens de se transformer en danseurs. Ils ne le seront pas, c'est pas la peine. Et inversement, un danseur de jouer d'un instrument, l'effet serait pas forcément très heureux. Mais le fait de créer des liens de situation, c'est-à-dire de les faire travailler sur le mouvement, sur une espèce d'écho du mouvement du danseur avec leur propre corps, ça fait sens. C'est-à-dire que du coup, l'orchestre n'est pas statique, il est le prolongement du travail de l'espace. Le spectacle, c'est un spectacle total, on peut dire. Moi, je veux pas que les musiciens soient dans une cage, je veux que sentir qu'il y a cette imprégnation, cette espèce d'imprégnation mutuelle entre la danse, le théâtre et la musique. Et pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de signes communs, il faut qu'il y ait des moments où on sente que le musicien est concerné par le mouvement. Sinon, c'est trop artificiel, en fait.
Peut-être que notre culture a séparé le son du corps. Peut-être en Occident, en Europe, puisqu'on voit bien quand on observe un petit peu de près un musicien, quand il est en répétition, on voit bien que son corps est présent. Parfois, il fait des gestes qui accompagnent le son, où on a parfois même l'impression que le son vient du geste.
Moi, je pense qu'il y a certaines œuvres contemporaines, par exemple, qui m'ont beaucoup impressionné, dans lesquelles le geste est présent. Je pense à différentes choses, mais je pense surtout à Kagel et à Drouet aussi, les machines de sa femme. Des pièces finalement dans lesquelles la voix du musicien, son geste, son attitude aussi sur scène participe de l'œuvre. Moi, c'est ça qui m'influence dans ma vision de ce que je peux faire avec le sandpainting et avec le corps. Après, pour moi, il faut pas non plus pousser trop loin la chose. C'est-à-dire que, enfin, quand je joue du saxophone, puisque je suis saxophoniste, j'utilise pas vraiment mon corps. Je ne vais pas raconter d'histoire. Au contraire, je ferme les yeux et je suis dans la musique. Point. Donc, c'est simplement des traits d'union entre qui, pour moi, ont un sens. Et ou alors, ça appartient à la mise en scène. Et il y a quelque chose qui peut permettre au spectateur de rentrer dans l'œuvre. Parce que de voir un musicien, je ne sais pas, dire une chose bête, mais jouer sur un pied, bon, le spectateur peut s'identifier à cette situation, en rire, voilà, être intéressé par la situation. Ces situations qui sont parfois drôles, parfois dramatiques, parfois équilibristes, ont un sens. C'est pas toujours facile à manier, hein, c'est tout un art.
Mais la musique contemporaine, quand même globalement, elle est allée vers un cheminement de, je dirais, de l'inexpressivité du corps, souvent, des interprètes, même je vois dans la musique de la saturation, on a quand même un geste très fort sur le plan sonore, mais on voit bien que les interprètes restent dans une posture traditionnelle, du moins un peu passive, du moins un peu effacée. Est-ce que c'est comme ça retrouver un chaînon manquant qu'on avait un petit peu laissé se perdre?
Le chaînon, il est pas manquant. Je trouve que depuis Cage, la deuxième grande révolution musicale du XXe siècle, on peut dire depuis les années 50, la première étant Debussy, Schoenberg, enfin à mon sens. Hein. Cage a apporté, par exemple dans cette œuvre très courte mais très très belle qu'il a appelée Wasser Walk, où il renverse des radios, il doit déambuler à toute vitesse en passant d'une tâche à une autre qui sont bien ordonnées. Et partitionnées, mais en fin de compte, c'est une espèce d'acteur qui fait des sons. Qui se déplace, c'est un comédien, c'est drôle, et ça raconte une histoire, je ne sais pas laquelle, mais ça raconte une histoire. Ça a donc existé dans l'histoire de la musique. Et je trouve que le problème, enfin c'est un problème, c'est pas un problème pour moi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu passer cet événement du XXe siècle. Après Cage, on ne peut pas regarder les choses de la même manière. On est obligé de considérer les choses et de se dire que quand on joue un instrument sur une scène, si on s'en tient, comme vous dites, à une attitude extrêmement réservée, c'est un choix. Et il faut savoir que c'est un choix. Maintenant, c'est plus un par défaut, c'est un véritable choix. Et il faut ensuite l'assumer. Moi, je ne l'assume pas. J'ai envie de travailler avec l'espace, de travailler avec la scène. C'est comme ça m'est beaucoup plus naturel, en fait.
C'est une personne comme Globotkar qui a déconstruit beaucoup l'instrument et généré, je dirais, de nouvelles manières de faire du geste. Et c'est aussi dans cet héritage-là?
Oui, moi j'avais travaillé avec Globotkar aussi il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est quelque chose ça, c'est aussi une double filiation. Parce que ça existe chez Globotkar, mais dans la musique improvisée, dans le free jazz, l'Art Ensemble of Chicago, etc., c'est des choses qui existaient. Dans le sound painting, on appelle ça, nous, extended techniques. Technique étendue. Et donc c'est un petit signe qui ressemble à un Bernard Lermite qu'on fait devant les yeux et qui indique au performeur d'aller chercher tout ce qui n'est pas enseigné de manière conventionnelle. Maintenant c'est un peu enseigné, mais enfin bon, pas encore tellement partout. Et donc on va chercher sur un violon, à passer l'archet ailleurs que sur les cordes, sur un piano, à pas mettre les doigts sur les touches, mais peut-être partout ailleurs dans le piano, en frottant avec des tissus, des bouts de bois, des plastiques, chercher différentes matières, etc. Bon, technique étendue. Voilà, il y a une filiation multiple. Le sound painting s'inscrit forcément dans tout ça. On ne peut pas ignorer ça. Je pense que dans la musique, même si on a le droit et le plaisir de jouer Jean-Sébastien Bach ou Mozart aujourd'hui, aucun problème. Mais on ne peut pas ignorer que Schoenberg, que Cage, que Helmut Lahrenmann sont passés par là. Ça fait partie de l'histoire. Et une fois que ça a été fait, on se doit, à mon avis, de ne pas l'ignorer.
On peut aussi rallier tout ce mouvement à l'expérience de Marcel Duchamp, mais que je l'ai reçu, l'expérience de Marcel Duchamp, et la notion de performance, puisque vous parliez de performeur. Donc c'est plus une performance qu'un concert, au sens où on l'entendait encore il y a quelques années.
Oui, ça c'est vrai, c'est une performance. Sound painting, oui, je pense que c'est souvent une performance. Avec les risques que ça veut dire. C'est-à-dire que ça peut être une performance réussie, ou une catastrophe. Moi, ce que j'aime bien dans mes propres spectacles, enfin, j'ai constaté que finalement, je vais souvent par là, c'est que j'aime bien aller aux limites. C'est-à-dire aux limites qui sont, je suis le sound painter, entre guillemets le chef, et jusqu'à quel point je suis encore le chef. Donc, il m'arrive parfois dans certains spectacles de laisser les choses faire que je suis presque débordé par les interprètes. Et j'aime beaucoup cette situation, avec un possible retour. Mais c'est risqué, c'est parce que ça crée une situation qui est drôle d'abord pour le spectateur, pour tout le monde, pour les interprètes aussi, et aussi une espèce d'enjeu, une espèce de dramaturgie dans le spectacle. Et je ne sais pas du tout ce que ça représente pour moi ou dans ma vision du spectacle, mais ça, il faudra que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, j'y suis attaché.
Et alors, ça se transmet, une œuvre, est-ce qu'elle peut se transmettre? Ça se transmet, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut transmettre une œuvre que l'on a créée en sound painting, je ne sais pas, tel jour, hier, est-ce qu'on peut le transmettre demain ou dans un mois?
Je crois quand même que le sound painting fait partie de ce qu'on appelle les œuvres éphémères. Et on l'assume, elles sont pas reproductibles, sauf si elles sont filmées et enregistrées. Bon, on va pas demander aux musiciens qui font de l'improvisation libre de reproduire la même improvisation le lendemain, ça n'aurait pas de sens. Ils voudraient pas le faire. Il ne pourrait pas non plus.
C'est une manière de réinventer, dans ce monde moderne de la reproduction, l'événement.
Eh bien, c'est ça qui devient très précieux, parce que du coup, vous avez remarqué que les disques ne se vendent pas beaucoup en ce moment, et c'est un euphémisme. Et donc, voilà qu'on crée des œuvres qui sont uniques, qui ne sont pas reproductibles, ou quasiment pas, et donc, il faut vraiment aller au concert, aller voir les performances, pour être là, si on ne peut pas rapporter ça chez soi. Et ça, c'est fantastique.